Que la grâce de la part de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Amen. Nous lisons la parole de Dieu ce jour dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 15. Évangile selon Luc, le chapitre 15. Nous allons lire du 11e verset jusqu'au 32e. Mais dans nos explications, nous allons nous focaliser à partir du verset 25. Mais pour des raisons de contexte du texte, nous allons commencer au verset 11. Évangile selon Luc, chapitre 15, verset 11. Il dit encore, un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père, « Mon père, donne-moi la part des biens qui doit me revenir. » Et le père leur partagea ce bien. Peu de jours après, le plus jeune fils, ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa ce bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans les besoins. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui a donné. Étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance. Et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez les veaux gras et tuez-les. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort. Et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il rêvait, et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria, mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton billet avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » « Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie. Parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé, parole du Seigneur. Béni sois-tu Seigneur notre Dieu. À ce moment, nous voulons t'écouter. Parle à nous, tes enfants, Seigneur. afin que ta parole soit toujours abondante dans nos vies de chaque jour. Au nom de Jésus-Christ, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes le dernier dimanche du mois de janvier 2023. Depuis que nous avons commencé ce mois, nous sommes en train de parler du thème « Quand les fondements sont renversés, les justes, que feraient-ils ?» Cela est tiré du psaume 11, le troisième vers. Et c'est David qui se pose cette question. Quand les choses ne marchent plus comme ça devait être, qu'est-ce que les justes peuvent faire? Et aujourd'hui, nous allons parler de la réaction du juste face à une offense. La réaction du juste face à une offense. Dieu ne vous a pas permis de vivre seul dans ce monde. Dieu est la solitude. Il veut que l'unité qui règne dans la Sainte Trinité puisse régner aussi parmi ses créatures. C'est pourquoi il n'a pas été satisfait quand il a créé l'homme sans la femme. Et il a pensé à mettre son partenaire ou sa partenaire. Pour qu'ils vivent dans l'harmonie, pour qu'ils vivent ensemble. Comme je l'ai dit avant, même si nous avons lu du 11e verset jusqu'au 32e, mais notre prédication se focalise du 25e verset jusqu'au 32e. Nous connaissons tous cette histoire, le problème de l'enfant prodigue, l'enfant perdu. Mais peut-être, au courant de cette prédication, nous saurons que peut-être ce n'est pas un enfant perdu. Ce n'est pas une parabole d'un enfant perdu, mais c'est une parabole des enfants perdus. Je ne vais plus revenir sur la situation, comment cela a commencé, mais lorsque le frère cadet qui est parti avec sa part qui lui a été donnée par son père, lorsqu'il est revenu, il est de retour, toute la maison était heureuse, sauf une personne. Une personne qui était au champ, et lorsqu'il revient, il trouve ou il attend de bruit d'une joyeuse fête, et c'est le frère aîné. La première attitude qu'il a eue, c'est qu'il n'a pas voulu aller voir qu'est-ce qui se passe réellement. Il n'a pas voulu aller voir de lui-même. Il est resté à l'écart et il a demandé à un serviteur, qu'est-ce qui se passe et pourquoi cette joie de fête? Et le serviteur lui dit, ton frère cadet est de retour. Et ton père nous a ordonné de tuer le veau gras. Voilà pourquoi il y a la joie. Cet bon frère aîné, la nouvelle ne lui plaît pas. Il se met à côté. Il est frustré. Et il a été profondément blessé. Dans son cœur, il a été blessé. À la lumière de la réaction du fils aîné et à partir du texte que nous venons de lire, nous allons déceler 6 réactions que nous pouvons produire lorsque nous nous sentons offensés et quelle peut être maintenant notre attitude en tant que juste ou disciple de Christ. 6 réactions. Et ces 6 réactions se retrouvent au verset 28, au verset 29 et le verset 30. La première réaction lorsque la personne est offensée, la Bible dit au verset 28, il s'est mis en colère. Ça, c'est la première réaction. Le verset 28a. Ça, c'est la caractéristique d'une personne qui est blessée, qui se sent offensée. Une personne qui sent de l'injustice à son égard. Même si nous sommes des chrétiens, nous sommes des justes. Est-ce que lorsque nous sommes offensés, nous ne devons pas nous mettre en colère? Est-ce que nous sommes interdits de nous indigner lorsque nous sommes offensés? Est-ce que nous sommes obligés de nous laisser tout faire pour sans réagir lorsque nous sommes offensés? Si quelqu'un m'offense, est-ce que je dois rester sans rien dire? Et ces différentes questions peuvent nous amener aussi à deux autres questions. Si je me sens en colère, est-ce qu'il y a une raison pour que je me sente offensé? Et s'il y a une raison, est-ce que j'ai fait bien de réagir comme je l'ai fait? On peut aussi se poser cette question. Souvent, lorsque nous donnons la colère, nous donnons la place à la colère dans notre vie, nous cherchons toujours des mauvaises intentions derrière les actions et les paroles de nos prochains, alors que peut-être ils ne nous veulent même pas du mal. Mais même si on nous fait du mal, c'est vrai qu'on nous a fait du mal. L'apôtre Paul, à 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 7 dit, il pose la question aux Corinthiens qui s'indignent aussi. Il dit, pourquoi ne supportez-vous pas plutôt des injustes? Pourquoi ne vous laissez pas plutôt causer du tort? Et donc, il prépare les Corinthiens et il leur dit, vous vivez et vous êtes avec d'autres personnes. Ils ne sont pas obligés d'être justes comme vous. Et ils peuvent vous faire du mal. Et il leur dit, pourquoi vous ne pouvez pas supporter leurs injustices? Ça, c'était la première réaction. Lorsqu'on est offensé, ce qui vient en premier, la colère. Deuxième réaction, c'est au verset 28b. La Bible dit, il ne voulut pas entrer. Il s'est isolé, il a refusé le contact. La Bible a dit, il ne voulait pas entrer. Et son père est venu lui supplier d'entrer, mais il ne voulait pas. La deuxième caractéristique de quelqu'un qui a un cœur blessé, c'est lorsque on se retire. On ne veut pas être en contact avec les autres. On ne veut pas être en contact avec ceux-là que nous pensons qu'ils nous ont offensés. On s'isole. Quelquefois, ça nous arrive dans l'église, dans les milieux professionnels, dans les milieux scolaires ou universitaires. Nous pouvons même nous poser des questions et nous formuler des phrases pour nous justifier. Il est possible que lorsque nous avons été offensés dans l'assemblée et nous demandons et nous disons, en tout cas, nous ne pouvons plus venir vers là parce qu'on nous a offensés. Nous tournons les dos à nos frères et sœurs et nous disons, en tout cas, pour garder bien nos cœurs, restons loin d'eux. Au lieu de chercher la restauration des uns et des autres, nous avons en vue seulement notre propre restauration. Or, si nous nous détournons de notre frère, et de notre sœur, nous nous détournons des membres du corps de Christ. Le corps de Christ a seulement une tête. Et la tête du corps de Christ, c'est Christ lui-même. Moi, je suis un membre, tu es un membre, l'autre est un membre. Nous sommes les membres du corps de Christ. Lorsque nous sentons qu'il y a une offense qui a été à notre membre du corps de Christ, nous préparons notre mort. Car un membre qui se détache du corps ne peut que mourir. Ce bras est vivant parce qu'il est attaché sur mon corps. Si on le coupe sur mon corps, le bras n'aura pas l'occasion de vivre. Troisième caractéristique, lorsque on est offensé, lorsqu'on a un cœur qui est blessé, être occupé de soi-même, ça découle de la deuxième caractéristique. Ça, nous trouvons au verset 29a. Être occupé de soi-même. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers. Il y a tant d'années que je te sers. » Ça, c'est un sentiment de la préoccupation de soi-même. Lorsque on se préoccupe de soi-même, on conjugue toujours le verbe à la première personne du singulier. Son père qui était sorti, celui qui le priait d'entrer, en tout cas, il lui a dit, « Je n'ai jamais désobéi à tes commandements, à tes ordres. » Quelquefois, bien-aimé dans le Seigneur, nous connaissons ces langages. En l'Église et partout où nous travaillons, nous pouvons dire, j'ai fait de mon mieux dans cette affaire. Et voilà au moment où tout va bien, au moment où les fruits sont mûrs, on me laisse tout simplement tomber. Nous commençons à énumérer ce que nous avons fait. Nous commençons à énumérer les biens que nous avons faits. Et ces biens-là, lorsque nous les énumérons, nous justifions notre irritation. Il est possible que tu fasses toutes tes années en train de travailler pour le Seigneur. Si c'est pour donner de ton temps, tu vas les donner pour l'évangélisation. Si c'est pour donner de l'argent, tu vas donner pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Mais lorsque nous allons dire, maintenant c'est la fin du mandat des anciens de l'Église, nous allons chercher les anciens de l'Église. Aucune cellule ne cite votre nom. Vous pensez peut-être que comme la cellule n'a pas cité mon nom, le consistoire va donner mon nom. Peut-être le consistoire va donner votre nom et vous devenez candidat, on vous montre ici, on vous présente. Le jour des élections, vous ne trouvez que votre voix et vous ne passez pas. Vous êtes tenté de dire, donc, même le pasteur n'a pas confiance en moi, même mon épouse n'a pas confiance en moi, même parmi mes enfants, personne n'a confiance en moi. Et donc, cet acte-là va créer des conséquences relationnelles à l'église, à la maison, et même partout. Si même vous êtes chef d'une entreprise et que vous connaissez vos serviteurs ici, les agents qui sont membres ici, mais qui n'ont pas voté pour vous parce que vous n'avez eu que votre voix, il y aura des problèmes aussi là-bas. Hier, nous étions à l'église et je n'ai eu que ma voix. Toi, tu as voté qui? Il y aura un problème là-bas. On se préoccupe de soi-même lorsque nous mettons en avant les biens que nous pensons que nous sommes en train de réaliser pour l'œuvre de Dieu. Nous devons examiner nous-mêmes les biens que nous faisons. Vous pouvez vous poser la question. Si tu te sens irrité parce que tu vois une certaine injustice par rapport aux actions que toi tu as commencé à poser depuis longtemps, il faut te demander, est-ce que j'ai fait ces actions pour le Seigneur? Ou peut-être je passe souvent par les noms du Seigneur, mais il y a ma propre gloire qui est cachée dedans. Il faut vous poser cette question-là. Lorsque nous sommes offensés, on peut prendre la décision d'interrompre tel ou tel autre service, c'est que nous sommes beaucoup occupés de nous-mêmes. Et du point de vue spirituel, cela est foncièrement très mauvais. Et c'est un mauvais signe de notre marche avec le Seigneur. Quatrième caractéristique, c'est au même au verset 29. Le verset 29b dit ceci. Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais transgressé tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Tu ne m'as jamais donné un chevreau. La quatrième caractéristique, lorsque on entretient un cœur blessé, on éprouve un manque de considération. On éprouve un manque de considération. On se sent négligé parce qu'on est en train de laisser la blessure être cultivée dans notre cœur. Et vous sentez que quelqu'un d'autre vous porte préjudice. Lorsque nous ne recevons pas assez d'éloges, ça vient de ce que je viens de dire avant. Il n'y a pas d'approbation de la part de nos bien-aimés avec qui nous sommes. Alors là, nous nous sentons que nous ne sommes pas considérés. Surtout lorsque il y a eu certaines personnes qui ont été bénéficiaires plus que vous et vous commencez à dire, en tout cas, il y a de l'injustice. Si je reviens à cet exemple des anciens de l'Église, tu vas commencer à critiquer les anciens de l'Église qui ont été élus. Tu vas même chercher toute la manière dont il vit. Chez lui, tu vas connaître. Tu vas même savoir la relation avec son épouse, la relation avec ses enfants. Tu vas même chercher à connaître combien est sur son compte. Parce que tu as compris qu'il y a une injustice qui a été faite à ton égard. Tu commences à fourrer ton nez dans les affaires des autres. Et pour cette caractéristique, le Seigneur Jésus, il exprime très bien ce qui se passe dans nos cœurs lorsqu'il présente la parabole des ouvriers engagés par un maître. Il y a quelqu'un qui a engagé des ouvriers. Il y a quelqu'un, depuis le matin, la première heure, il l'a engagé. Ils ont eu un contrat, je vais te donner 1000 francs. L'autre vient à la 11e heure. Lorsqu'il dit la 11e heure, c'est 17 heures. Ça a coumine à manger. La 11e heure. Et tous doivent finir à la 12e heure, c'est-à-dire à 18 heures. Celui qui a commencé le travail à la première heure, à 7 heures, il aura 1000 francs. Celui qui a commencé aussi le travail à 17 heures et tous vont finir à 18 heures, il aura aussi 1000 francs. Et maintenant, celui qui a commencé à la première heure, il se sent offensé. Il se sent offensé. Il y a une injustice. Oui, oui. Si on vous demande, vous aussi, vous allez dire, ça, c'est une injustice. C'est une injustice. Vous allez le dire. Ça, c'est à Matthieu chapitre 20. Nous devons savoir que lorsque nous travaillons pour un maître, chacun de nous a son propre contrat avec ce maître. Quand nous avons commencé avec vous à 7 heures, quel était le contrat? C'était 1000 francs. Et pourquoi tu veux me poursuivre? Le contrat, c'était 1000 francs. Et celui-ci, les contrats, c'était aussi 1000 francs. Tu n'as pas ta signature sur les contrats de l'autre. Si je te donne 1000 francs, ou bien si j'agis d'une bonne manière pour l'autre, pourquoi cela te fait du mal? Je vais donner un autre exemple. Vous êtes assis sur les bancs. Ce sont des plages. Ce sont des arbres. Voici un autre meuble qui est ici. C'est aussi un arbre, c'est aussi des planches. Peut-être que quand on était en train de les scier dans la forêt, il y a eu une planche qui a été utilisée pour confectionner les bancs sur lesquels vous êtes assis. Et une autre planche qui a été utilisée pour confectionner cette table de la Sainte-Seine. Chaque fois que vous venez ici, vous-même, vous vous dites, voici là que je dois me mettre. Je vais m'asseoir ici. Si on te trouve et tu es déjà assis sur cette table, on va s'étonner de toi. On va s'étonner de toi. Mais pourquoi? Tu connais la valeur de cette table par rapport à ces bancs, alors que ce sont des planches. Peut-être des mêmes arbres, mais les valeurs diffèrent. Et c'est Dieu qui a établi ça comme ça. Il établit ça comme ça. Possiblement que même vous pouvez naître dans la maison, un même père, une même mère, mais vos développements ou vos épanouissements ne sont pas toujours les mêmes. Et vous les connaissez, pendant que vous êtes tous passés par un même utérus. Il ne faut pas manquer la considération à vous-même, à vous comparer aux autres. Lorsqu'il dit, tu ne m'as jamais donné un chevreau, afin que j'aille ailleurs. Non, non, ne vous comparez pas. Vous êtes considéré par celui qui vous a mis là où il vous a mis et il connaît le travail que vous êtes en train de faire là-bas. Cinquième caractéristique de quelqu'un qui entretient un cœur blessé, c'est avoir une attitude égocentrique. C'est au verset 29c. Le verset 29c dit, « Un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Faire bonne chère avec mes amis. Pourquoi il ne pouvait pas dire, tu ne m'as jamais donné un chevreau pour que je me réjouisse dans la famille comme nous venons de le faire pour l'arrivée de mon petit frère. Mais il dit, avec mes amis. Cela montre peut-être que, avant que cet événement n'arrive, il avait cela aussi dans son cœur, mais il ne savait pas comment l'exprimer. Cette tendance doit avoir été dans son cœur. Vous savez, souvent, nos pensées intérieures peuvent être bien connues lorsque nous sommes offensés. Lorsque nous sommes offensés, il n'y a plus de frais dans notre bouche. Tout ce que nous pensons, ça sort par la bouche. Et on ne s'inquiète même plus devant qui on est en train de parler. On a un shangala quand quelqu'un vous dit, on m'a dit que vous avez dit ceci. Une des caractéristiques d'un homme blessé, c'est de mépriser le lien entre les membres de la famille de Dieu. Il méprise les liens entre les membres de la famille, mais il donne beaucoup plus d'importance à ses amis qui sont à l'extérieur. Quand nous sommes blessés souvent, nous disons non, ceux-là nous ont blessés. Et nous voulons entretenir souvent à l'église des bonnes relations avec ceux-là dont nous pensons qu'eux, ils sont de nos côtés. Et nous voulons entretenir des bonnes relations avec eux. Dans cette attitude-là, il y a une grande dose d'égocentrisme. Lorsqu'on est centré sur soi-même, on est plus spirituel. On est plus spirituel lorsque on est centré sur soi-même. Ici, il y a des gens maintenant qu'ils sont blessés ou qu'ils se sentent blessés, Mais à un moment donné, ils disent, comme je me sens blessé là-bas, il faut que je cherche des amis à l'extérieur avec qui je vais faire bonne chair. Ces gens-là qui sont à l'extérieur, ce sont maintenant ceux qui vont vous entraîner dans tout ce que vous faites, tout ce que vous pouvez faire et qui ne cadrent plus peut-être avec la logique de votre famille. Ce sont déjà comme ça que vous voyez à l'extérieur de l'église en train de dire « Ile kanisa yetu, nyevenye muko kule, musiharibishi. » Mouichunge mzuri ile kanisa. Il est très saoulé, mais il se souvient quand même de l'église. Ça, c'est notre église. Restez, vous qui êtes, restez intègres là-bas. Vous demandez aux autres qui sont là de rester intègres. Et vous maintenant, l'intégrité, c'est pour nous tous. Sixième caractéristique, lorsque nous sommes enfoncés, ou bien lorsque nous entretenons la blessure dans notre cœur. La Bible a dit, c'est au verset 30b. Au verset 30, il a dit, « Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » La partie B dit ceci, « Celui qui a mangé ton bien avec les prostituées. » Lorsqu'on entretient un cœur blessé, on parle sans amour. On parle de faute des autres. Même si c'est vrai, mais vous allez parler sans amour. Et puis ici, la Bible nous dit que la femme était partie et personne ne savait où il était. Comment ce fils aîné a su qu'il a dilapidé les biens du père avec les prostituées? Alors que l'enfant était perdu. Personne ne savait où il était. Bon, le narrateur, quand vous lisez le verset qui précède, le verset 25 qui précède donc la gauche, ça c'est le narrateur qui dit. Mais l'esprit du texte dit que personne, il était perdu. C'est pourquoi on l'appelle l'enfant perdu. La femme prodigue, c'est-à-dire personne dans la maison ne connaissait pas où il est, ne connaissait où il était. Mais il dit, celui qui a, lorsque nous entretenons un cœur blessé, il est possible que nous mettions des mots, il est possible que nous inventions des mots, il est possible que nous donnions des caractéristiques des gens qui nous ont blessés. Nous parlons d'eux sans amour. Ce que nous disons peut être vrai, ce que nous disons peut être faux, mais dénominateur commun, nous parlons sans amour. On parle sans amour lorsque on est blessé. Maintenant, nous sommes dans l'église. Et lorsque nous nous adressons à propos des autres, nous parlons d'eux sans amour. Peut-on encore parler de l'amour fraternel à l'église? L'amour de Dieu est versé dans nos cœurs. Et lorsque nos cœurs sont blessés et nous entretenons cette blessure dans nos cœurs, ça chasse l'amour de Dieu. Ça chasse l'amour qui peut nous permettre de voir comment vivre avec les autres. Nous ne voyons plus rien d'autre que le tort que nous avons subi. Et nous jugeons même notre frère, nous jugeons même notre père. Nous prêtons des intentions à d'autres parce que peut-être ils nous ont fait du mal. Cette parabole que nous venons de lire nous permet de dire deux choses. Il est possible qu'on se perde étant dans la maison. C'est possible que tu te perdes alors que tu es dans la maison. Il n'y a que deux chambres dans ta maison, mais tu peux te perdre alors que tu es là. Cette parabole commence par le fils cadet qui était perdu et finit par le fils aîné qui est aussi perdu par ses réactions. Parce que déjà là, il commençait à entretenir, il commence à entretenir un climat qui va lui permettre aussi de se perdre. Ça veut dire quoi? Notre problème dans la société, dans l'église et partout où nous sommes, nous avons un problème de la recherche du positionnement égoïste. Un problème de la recherche du positionnement égoïste. Les gens se donnent... J'ai mon professeur, il a son français qui est un peu différent des autres. Il parle de coucous pastoraux. À l'église, on peut observer des coucous pastoraux. Les pasteurs entre eux, on cherche le positionnement. Il faut que je sois là, il faut que je sois là, il faut que je sois là. Si tel est là et que moi je suis là, alors ça sera comme ça. Positionnement égoïste, politique. Il y a des politiciens ici. Là, on est même prêt à se tuer. Et ne fût-ce que pour des intérêts. On est prêt à faire des histoires sur une personne afin que sa personnalité soit sapée et qu'il ne trouve plus d'électorat. Nous sommes à l'année électorale. Je sais que vous êtes là et vous allez postuler. Passez par votre intégrité. Ne passez pas parce que vous avez commencé par détruire quelqu'un d'autre. Venez nous demander vos voix. Venez nous convaincre par votre manière d'être, par votre foi, par votre intégrité. Et nous, on va vous donner les voix. Ça sera automatique. Dans l'armée, peut-être que tu es policier, tu es ici. Tu es général, tu es ici. Les gens sont prêts à cause des promesses, des données, de mettre sous menace la vie de toute une république parce qu'il y a des promesses. Quand nous arriverons telle part, si tu nous permets de passer par ici, alors tu seras nommé chef d'état-major. Et là, tu trembles directement. C'est un positionnement égoïste. Et à cause de toi, 500 000 personnes se retrouvent maintenant dans la rue, 500 000 personnes se retrouvent dans des bâches et d'autres en ciel ouvert. Les gens disent, Dieu te voit. Oui, oui, Dieu te voit. Il voit ce que tu es en train de faire. Et sa punition ne va pas tarder. Dans les business, nous avons des commerçants ici. On les appelle des hommes d'affaires et des femmes d'affaires. Je ne sais pas pourquoi on avait dit ça. Les hommes d'affaires. Et les autres font quoi? Est-ce que tout ce que nous on fait ne sont pas des affaires? Pourquoi seulement on les a appelés hommes d'affaires, femmes d'affaires? Ça signifie que cette appellation-là peut devenir une source de tentation pour ce que vous faites là-bas. Parce que ce sont les affaires. Et quelquefois, il y a des gens qui disent, non, quand nous sommes dans nos affaires ici, tout est kwanza mambo ya Mungu pembeni, parce que ce sont des affaires. Et nous sommes prêts à piétiner les autres. Non, nous sommes appelés à nous élever les uns les autres. Normalement, vous êtes commerçant ici, à Gomaville. Ne permettez pas qu'il y ait un autre commerçant de Gomaville qui est en train d'aller à des gringolades et toi maintenant ça devient ton sujet de joie. Tu dois pleurer avec lui et pour bien pleurer, tu amènes 1 000 $ là-bas, tu dis non, tu peux encore aller à Kampala. Au lieu d'aller à Dubaï, quand même, je veux t'aider à aller à Kampala. Et comme ça, vous allez encore. Mais lorsque nous entretenons des cœurs égoïstes, tu resteras seul. Et si tu as des biens seuls, tu deviens riche millionnaire seul. Au milieu de 1 000 000 de pauvres, tu deviens millionnaire seul. C'est une menace. C'est une menace contre toi. Les médecins, quand on est à l'hôpital, parce que nous voulons chercher un positionnement égoïste, il y a des choses qu'on parle des médecins. Dans les salles d'opération là-bas, dans les salles de consultation, il y a ceux-là à qui on dit, ces gens travaillent avec des gris-gris. Tout ça pour chercher le positionnement, pour chercher C'est à Lingala qu'on dit l'okumu. La gloire. Que les malades viennent nombreux chez moi. Qu'ils me demandent. Si tel n'est pas là, je rentre. Non, non, c'est Dieu qui élève. Pierre a dit, humiliez-vous pour que le Seigneur vous élève au temps convenable. Au temps convenable. Même en cours de route, vous qui conduisez le véhicule, on sent directement qu'il y a des égoïstes routiers. Lui, il veut arriver toujours partout. Il va, il veut que, peut-être quand il vient de mettre la chaussée avec, il soit la seule. Vous le verrez partir comme ça dans la route et ça cause beaucoup d'accidents. Tout ça, positionnement. Nous devons savoir, bien-aimés dans le Seigneur, que l'individualisme nous empêche de participer aux réjouissances de tout le monde. La réjouissance était dans la maison du Père. Cet homme, ce fils aîné, il a voulu avoir son veau gras pour qu'il aille se réjouir ailleurs. L'individualisme empêche de participer aux réjouissances de tout le monde. La réjouissance, lorsque nous sommes ensemble, nous montre la communion que nous avons avec Christ. Christ a une communion particulière avec chacun de nous, mais aussi il fait à ce que nous soyons tous dans la communion entre nous. Lorsque nous sommes en prière, nous devons le faire en communion. Lorsque nous écoutons Dieu, nous devons le faire en communion. Lorsque nous louons et adorons Dieu, nous devons le faire en communion, afin que la toute gloire revienne à Dieu. Je vais finir par deux choses. La première chose que nous devons savoir, c'est que notre réaction dépend de notre état spirituel. Votre réaction, c'est le thermomètre. Votre réaction, c'est le thermomètre qui montre réellement le niveau de votre température spirituelle. Quand vous réagissez à une action, quand vous réagissez à un acte qui a été posé, cela peut amener à votre entourage à dire « Ah, voici le niveau de la spiritualité de tel. » Deuxième chose, lorsque nous marchons avec Dieu qui est notre Père, n'oublions pas notre position devant Dieu et le privilège que nous avons. C'est ce que le Père a dit. Tu as été avec moi et tout ce que j'ai t'appartient. Mais ce petit-là, ce frère aîné, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, tu ne m'as jamais donné même un chevreau. Donc il ne sait même pas que tout ce qui est là peut lui appartenir et c'est pour lui. Mais il peut, si on lui donnait ce petit chevreau, il allait se contenter avec ce petit chevreau. Lorsque nous marchons avec le Seigneur, n'oublions pas notre position devant Dieu et nos privilèges. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons prier le Seigneur. Même si l'affaire de la parabole est décevante, elle est décevante parce que les deux deviennent des enfants perdus. L'image qui reste ici, c'est celle d'un être qui guette, un être qui court à la rencontre, un être qui est très et qui embrasse les fils perdus et cet être-là organise un festin. L'image de cet être-là, c'est un être qui a la compassion des perdus, c'est un être qui a la compassion de ceux qui sont encore loin. Comme le Père a vu le Fils étant encore loin, il a eu la compassion et il est allé le recevoir avec joie. Mais aussi, il a la compassion de ceux qui sont toujours prêts. C'est pourquoi il a fait un pas avec, pour prendre le fils aîné qui était déjà blessé et lui dit, entre et réjouis-toi avec nous. Cet être-là, c'est Dieu lui-même. Nous sommes dans la maison de Dieu. Est-ce que nous ne sommes pas perdus dans la maison de Dieu? Quelles sont les réactions que vous posez lorsque vous vous sentez offensé? À l'église, en politique, en business, dans la société, partout où vous œuvrez. Quelles sont les réactions? J'ai dit, notre réaction dépend de notre état spirituel. Souvenez-vous des privilèges que vous avez en Dieu. Ce Père qui a compassion, ce Père qui a compassion de ceux-là qui sont perdus de loin et aussi de ceux-là qui sont perdus de près. Et il a aussi compassion de ceux-là qui sont avec lui dans l'intégrité. Mettons-nous debout pour la prière. Lorsque tu te mets debout, tu es en train de penser à ta vie spirituelle. Lorsque tu as été blessé par ton épouse, par ton mari, par tes enfants, par tes parents, par tes pasteurs, par tes chefs, tes agents, quelle a été ta réaction? Est-ce que ta réaction ne t'a pas amené aussi à retomber dans la même erreur que tu voulais corriger? Chacun de nous va prier.
You are Yahweh. 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 Alpha and Omega. You are Yahweh, Alpha and Omega. You are Yahweh, you are Yahweh, yeah, you are Yahweh, you are Yahweh.
Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu règne toujours dans son saint temple. Lorsque nous nous sentons offensés, lorsque nous sentons qu'il y a une injustice à notre égard, Dieu est toujours dans son saint temple. Il t'attend afin que tu sois restauré dans ce qui te fait du mal dans ton cœur. Lorsque tu entretiens un cœur blessé, ça va t'amener aussi de maladies psychosomatiques. Il est temps que tu te débarrasses des soucis et de ces blessures, même si elles ont été causées par quelqu'un. Que l'Éternel te donne la grâce. Prions. Dieu notre Père, nous te bénissons. Tu nous as rendus justes, nous qui étions injustes. Par ton sang, le sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix de Golgotha. Et la Bible dit que ce sont nos meurtrissures que tu as portées. Seigneur, maintenant nous voulons que tu acceptes encore une fois de porter nos meurtrissures. Tu connais les cœurs de chacun de nous ici. Tu connais les niveaux que nous, avec lesquels nous entretenons des querelles dans nos cœurs, contre nos prochains, peut-être ici à l'église, peut-être dans nos lieux de travail, partout où nous sommes. Aide-nous, Seigneur, afin que nous marchions juste devant toi. Même si nous pouvons voir que les fondements ont été renversés en faveur des autres que nous avons jugés injustes et nous qui avons voulu rester fidèles à toi, Seigneur, aide-nous à ne fixer que nos regards vers toi, toi qui nous as appelés à te servir. Sois béni à jamais au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse tous.